9h, 11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le club de l'été, le dernier de la semaine et le dernier de la saison. Dans ce club, vous le savez, on aime partager nos coups de cœur pour la littérature, le théâtre, le cinéma, les séries, mais aussi partir à la découverte de nos spécialités locales. Nous avons 2 heures pour partager nos coups de cœur culturels et culinaires. À mes côtés, 2 expertes, 2 gourmandes, 2 amoureuses du beau et du bon. Sophie Massieu pour le tourisme et la culture et Sophie Mouns pour la gastronomie. Bonjour les filles.
Bonjour les amis.
Comment
bonjour
ça
Lise,
va
bonjour
ce vendredi?
Bah c'est la dernière.
Bah
là,
oui,
on est en coup de blues.
Voilà. Déjà,
heureusement, on a une petite bouteille là devant les yeux.
Ça va tout de suite mieux pour Sophie Mouns.
9h13, c'est l'heure.
Sophie Massieu, vous nous emmenez ce matin dans le Perche.
Absolument, et je ne vous dirai toujours pas où, forcément.
Toujours pas,
et
voilà.
Non.
Le suspense. Ah, il est question de chevaux, donc.
Ah, vous croyez?
Oui, je pense. Sophie Mouns, qu'est-ce qu'on boit avec notre ami Modération,
évidemment. On va parler cidre, cidre.
Oui. Hein? Bien sûr,
parce qu'en la matière, il y a du bon et du moins
c'est
bon.
Comme dans tout, en fait, Sophie. Oui. Vous ne cessez de nous le dire depuis toute la semaine. Nous aurons 2 heures, évidemment,
en
pour
plus,
parler...
En plus, elle nous ronde si on fait le mauvais choix.
Mais c'est ça. Nous aurons 2 heures pour parler de notre patrimoine culturel et gastronomique. Soyez les bienvenus dans ce club de l'été. Vous n'hésitez pas à réagir, c'est toujours sur Twitter. Avec le hashtag Europe 1, nous sommes ensemble en direct jusqu'à 11h.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1, Lise Pressac.
Notre invitée est comédienne, vous la connaissez sans la connaître depuis bientôt 40 ans et vous l'avez sans doute croisée cet été si vous avez eu la chance de partir en vacances. Portrait sonore.
À l'heure des selfies, des tweets et des likes, la SNCF, même si elle a progressé durant la période difficile que l'on vient de traverser, vous doit une information rapide et fiable. Aidons-la ensemble à progresser dans ce domaine.
Attention au passage d'un train. Éloignez-vous de la bordure du quai.
Mais oui, vous êtes bien sur 514 mètres onde moyenne. Ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas votre programme habituel. C'est aujourd'hui la générale de France Inter Paris, 514 mètres.
Ce train comporte beaucoup de bonheur, un espace fiesta, et il est accessible à tous les voyageurs, y compris ceux qui n'ont pas réservé leur place.
Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet.
Bonjour Simone Hérault. Je suis obligée de couper Grand Corps Malade.
Ouais, ça fait mal de le couper.
Mais oui, nous sommes très heureuses de vous recevoir dans ce club de l'été sur Europe 1. Vous êtes comédienne, vous êtes la voix officielle de la SNCF depuis bientôt 40 ans. Vous avez également fondé en 2001 la compagnie de lecture publique Lire Autrement, animée par des comédiens et des musiciens professionnels. Nous allons évidemment parler plus longuement de tout ça. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez pu reconnaître dans ce petit portrait sonore?
Alors, j'ai reconnu beaucoup de choses. Le premier jingle n'est plus le bon jingle.
Bien
c'est
sûr.
Un jingle d'il y a très, très longtemps.
C'était avant 2005, apparemment, celui-ci.
Voilà, exactement. J'ai été émue parce que vous avez passé un extrait de FIP 514
oui.
À l'époque, c'est-à-dire en onde moyenne. Après, FIP, j'ai passé 30 ans dans cette radio hein, que j'aime beaucoup. Et après, on est passé en modulation de fréquence, quoi,
oui.
En FM, on était les seuls sur la bande. Et puis après, il y a eu des centaines de milliers de radios qui sont arrivées. Et j'ai donc reconnu la voix de Chris, voilà,
oui.
Chris Graffiti, qui a été une des grandes voix de France Inter.
Oui, c'est ça, parce que c'était la première émission de FIP en 71. Vous deviendrez une FIPette, c'est comme ça qu'on appelle
exactement.
En 72. Vous aviez appris votre embauche par Telegram, vous l'avez toujours gardée?
Mais elle sait tout de moi.
Mais avant, on travaille pour cette émission, Simone.
Elle a travaillé.
Est-ce que c'est encore
oui,
vrai?
Oui, j'ai toujours ce télégramme, candidature acceptée, téléphoner. Voilà, on était embauchés sur Telegram. Mon Dieu, ça paraît les petits bleus, quoi, comme autrefois. Enfin, autrefois. C'était autrefois, évidemment, en 1972. Pour les jeunes qui nous écoutent, c'était vraiment autrefois.
À l'époque, vous étiez entrée en tant que secrétaire, finalement, à l'ORTF en 69, c'est ça?
Oui,
vous n'étiez pas destinée forcément à faire de l'antenne?
Pas du tout, du tout. J'étais sur les recommandations de mon papa, parti faire une école de secrétariat, supérieure de secrétariat, excusez-moi.
Voilà, mais pour trouver un travail.
Et surtout pour lui faire plaisir à lui, parce qu'il était, il avait un poste très important dans une grosse société. Et il admirait tellement ses secrétaires que je trouvais bien de ressembler à ses secrétaires qu'il admirait. Et donc, dans ma vie, j'ai dû faire 3 jours de secrétariat parce que j'ai eu un coup de chance extraordinaire. On m'a envoyé en stage de secrétariat à la maison de la radio.
Ça, c'est génial.
Voilà, dans un service qui s'appelait Interservice Jeunes. Et au bout de 3 jours, je commençais à faire des petits trucs, des petits reportages, des petites chroniques. Je rangeais les dossiers aussi, hein, faut pas exagérer. Après, j'ai travaillé sur France Culture. Là, je découpais les dépêches à l'époque où on découpait les dépêches.
Ouais, c'était pas l'AFP qui arrivait sur les ordinateurs.
Voilà, exactement. Donc, je préparais les dossiers pour les journalistes de France Culture. Et après, j'ai passé ce test pour ce casting. On disait pas ça encore pour FIP.
Et comment ensuite on vous a repéré depuis FIP jusqu'à la SNCF en 81? C'est un heureux hasard, si je puis dire. Enfin, c'est un accident heureux, on va l'appeler comme
ça. C'est un accident heureux, effectivement. Quelqu'un que vous aurez peut-être l'occasion d'entendre tout à l'heure.
Oui, qui vous a accompagné.
Voilà, qui m'a accompagné, a écouté les voix d'Inter avec beaucoup d'intérêt et a voulu recruter pour les voix de la SNCF, des voix de France Inter. Et en fait, le standard l'a aiguillé sur FIP.
Voilà. Incroyable. Voilà comment c'est arrivé.
C'est génial.
C'est quand même génial. Alors, on a aussi entendu un jingle remixé par DJ Liprod. Il faut savoir qu'il y a énormément de jingles de la musique de la SNCF et surtout, il y a énormément de vidéos de contrôleurs qui dansent sur ces musiques. Je ne sais pas si vous les connaissez, Simone, mais c'est...
Ça m'est arrivé d'en voir, oui.
C'est vrai,
c'est
voilà.
Super.
C'est complètement viral, en tout cas, cette musique. Et on en a entendu aussi une petite voix différente, on va dire, pour annoncer la nouvelle année 2013. C'était un train festif parce que vous participez aussi. Il n'y a pas que les accidents et les grèves, etc. C'est toute la vie de la SNCF à laquelle vous participez. Et quand il y a une nouvelle année, quand il y a un anniversaire, vous êtes aussi de la partie. C'est une grande famille au final.
Oui, c'est une entreprise vraiment merveilleuse. C'est mon entreprise de cœur. Il y avait FIP et il y a la SNCF. Vous avez parlé d'accidents, je dis pas, c'est vraiment pas courant. Hein.
Oui.
Beaucoup plus de fêtes,
de
choses positives vis-à-vis de la SNCF, vis-à-vis des voyageurs. Il y a toujours des petits problèmes, mais globalement, c'est formidable.
Le Club de l'été va se poursuivre jusqu'à 11h avec vous, Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. À tout de suite.
On prend le temps, on se détend.
Avec le Club de l'été sur Europe 1.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1, c'est la suite du Club de l'été avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Vous êtes la voix de la SNCF depuis 1981, ou plus exactement depuis 1993, parce qu'au début, vous étiez deux en alternance. Comment s'est fait le choix entre les deux heureuses finalistes?
Vous l'avez éliminée?
Sophie Massieu, mais non.
La pauvre.
Pas de méthode...
Il s'est passé que de plus en plus de gares ont dû être équipées. Il y a eu la révolution de l'informatique,
oui,
avec un système unique. Et à système unique, il fallait une voix unique parce qu'il fallait que tous les petits morceaux de mots voilà, soient raccord avec une seule voix, que l'on puisse faire une sorte de puzzle sonore entre tous ces petits morceaux. C'est ce qui compose les annonces que l'on entend dans les gares et dans les trains.
On entend les petites coupes d'ailleurs.
Voilà.
On dit « Ah tiens, alors, ça a été rassemblé ».
Légère, hein, parce que si vous arrivez à trouver les coupes dans les numéros de train, bravo. Hein.
Ouais, on les entend un petit peu.
Quand même.
Ça, c'est un peu. Mais j'ai plutôt pas une mauvaise oreille.
Mais mon oreille est plutôt affûtée. Il paraît que votre voix a été choisie aussi pour son côté maternant, rassurant. Il faut rassurer l'usager de la SNCF, c'est ça?
Il ne faut pas le rassurer, il faut l'accompagner, il faut lui donner ce calme qu'il attend dans une gare, qui est un univers quand même assez stressant. Donc, si vous voulez, ma voix prend les voyageurs par la main. Voilà, si on peut oser dire cette...
que c'est doux.
cette jolie phrase. Et je les accompagne dans leur train et je les accueille à l'arrivée de leur voyage. Il y a un côté chaleureux, un côté, oui, effectivement, je les accompagne, je suis la maman, la grande sœur, je les coucoune.
Est-ce qu'il y avait un cahier des charges? Est-ce que justement, ils cherchaient un type de voix en particulier? Est-ce qu'ils s'étaient dit, il faut que ce soit souriant? Est-ce qu'il faut que ce soit neutre? Est-ce qu'eux-mêmes savaient le timbre de voix qu'ils cherchaient, ou c'est un petit peu au hasard que ça s'est fait?
Il y avait avant, nous deux, donc Voix de FIP, il y avait une animatrice d'Europe 1, une de RTL, d'accord, je crois. Donc voilà, c'était des voix, déjà des voix de radio, mais qui avaient un style différent des voix
évidemment.
De FIP. Voilà, qui étaient, les voix de FIP étaient assez à la mode entre 70 et 80, et toujours d'ailleurs.
Elles le sont toujours
sont,
d'ailleurs.
Elles sont formidables. Et c'est... Non, on n'a pas eu d'indication. Bon, évidemment, il ne serait pas de bon ton pour des annonces basiques de se mettre à sourire oui, comme ça. On pouvait sourire sur FIP. Ou... Voilà, donc oui, mais le ton s'est fait très naturellement, très naturellement.
Est-ce que vous vous rappelez de votre première annonce ?
Oui, ma première annonce, la première gare, c'est quand j'ai passé le casting d'ailleurs. J'ai enregistré les annonces pour une gare qui allait s'équiper en annonces sonores, et c'était la gare de Chambéry-Châles-les-Eaux.
Et c'est pas la plus facile à dire.
Oui, mais c'est la plus jolie.
Ah, elle est
Chambéry-Châles-les-Eaux. C'était très joli. Bon, c'est Chambéry et Châles-les-Eaux sont deux villes qui se sont regroupées autour d'une gare. Mais je trouve que c'était très, très beau de dire Chambéry-Châles-les-Eaux.
C'est vrai qu'elle est très belle. il est très beau, ce nom de gare. Ça vous demande combien de séances d'enregistrement par mois ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à refaire ? Parce qu'il y a des gares qui changent de nom, notamment. Qu'est-ce que vous avez besoin de réenregistrer et à quelle fréquence ?
Alors, évidemment, tout ou presque tout a été enregistré. Il y a, comme vous le dites, des gares qui changent de nom. Et... Il y a aussi beaucoup de téléphonie. Je fais beaucoup de téléphonie, que ce soit pour des serveurs internes ou externes, et puis de l'événementiel. Et donc, c'est à peu près une fois par mois.
D'accord.
Aujourd'hui. Mais bon, avant, c'était beaucoup plus. Surtout quand ce n'était pas encore en numérique et qu'avec ma camarade Sophie, on venait matin, après-midi, sans arrêt. Quand on n'était pas à FIP, on était à la SNCF et inversement.
Et inversement. Et comment vous faites pour prononcer les noms de certains endroits? On l'a constaté, nous, au cours de ces deux mois, quand on va dans certaines régions. Moi, j'ai des problèmes de prononciation pour certaines communes. Est-ce que vous avez un conseiller qui vous dit « on prononce comme ça telle ville », comment ça se passe? Parce que moi, très honnêtement, je me pose la question à chaque fois que je dois prononcer une ville que je ne connais pas.
C'est un gros problème, c'est un grand sujet. Non, mais c'est vrai, parce que il faut prononcer bien pour les gens, c'est très important. On ne va pas mal prononcer leur commune. Malheureusement, il y a toujours des choses qui échappent à notre vigilance, même si on se renseigne auprès des offices de tourisme, auprès des gares évidemment, mais auprès d'habitants, on fait ce qu'on peut et il y a toujours des petits mots qui nous échappent.
Forcément.
Et après on se dit, oh là là, mais tu as dit ça, nanana. Bon, et après c'est très très difficile de faire repartir, pardon, parce qu'il y a des tas de circuits pour remettre ces noms, par exemple à l'intérieur des trains, et c'est très compliqué d'arriver à remettre ça en place, et ça je boue, ben, je rage.
J'imagine à chaque fois. Vous êtes aussi marraine de la bibliothèque numérique de la SNCF, un service disponible sur l'application e-livre. Peu de gens le savent, mais à bord du train, on peut donc avoir accès à des milliers d'ouvrages gratuitement. En fait, il suffit de s'inscrire, Simone, c'est ça le principe.
Alors, SNCF e-livre, c'est quelque chose de formidable et je suis très très contente d'en être la marraine et j'espère que ça va durer longtemps. Ce n'est pas uniquement à bord des trains.
Ça veut dire en dehors aussi, voilà.
Il vous suffit d'ouvrir un compte, c'est gratuit, et vous avez voilà, énormément d'ouvrages avec, par exemple, un temps de parcours. Il y a plusieurs entrées par temps de parcours, par thème, par intérêt, etc. Il y a une bibliothèque très, très importante. Il y a beaucoup de livres pour la jeunesse aussi. Ça, c'est,
oui, vous avez un partenariat avec la BD d'Angoulême, notamment, c'est ça, avec le centre de la BD.
Exactement, parce que la SNCF est très impliquée dans le livre et la lecture, avec le prix du polar, avec les histoires courtes, les distributeurs dans les gares. Et donc, SNCF e-livre concrétise un petit peu toute cette envie de partager voyage et lecture. Et
est-ce qu'il y a des livres audio sur cette plateforme ? Je n'ai pas vérifié.
Alors, il y a un lien vers l'association Valentin Ahuy. C'est un lien. Parce que ce ne sont pas des livres que l'on peut télécharger, ce sont des livres que l'on peut lire directement sur smartphone, tablette ou ordinateur pendant le voyage ou à la maison.
Ou à la maison. Et vous avez aussi fondé une compagnie de lecture publique. On en reparlera tout à l'heure, dans un instant, sur Europe 1.
9h, 11h.
Le club de l'été sur Europe 1.
J'adorerais avoir une crêpe à mon nom, moi aussi.
Quoi ? Vous déconnez ?
Ah, j'ai dit ça, moi ?
Elle est folle !
elle est complètement folle.
Ça, c'est sûr.
Lise Pressac.
Elle est frappadale.
Bah oui, c'est la classe Guillaume de Tonquédec. Notre invité d'hier a une crêpe à son nom dans une crêperie. Voilà, c'est un rêve comme un autre. Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été avec notre invité, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Ce matin, vous vouliez nous parler du livre de Sylvie Germain, La vie reprend ses tours. C'est publié chez Albin Michel. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce livre, Simone, pour commencer? Ah, vous avez des étoiles dans les yeux.
J'adore réellement cette auteure, cette femme extraordinaire qui sait aussi bien parler de la misère profonde du monde, des souffrances, des guerres, etc. On a l'impression qu'elle a tout absorbé et qu'elle ressort ça avec une grâce infinie, et c'est présent dans tous ses livres. Je dirais, elle en a écrit des dizaines et des dizaines. C'est quelque chose de merveilleux quand on sort de ce genre de livre. On est bouleversé.
Mais j'ai l'impression que vous l'êtes encore.
Ah oui, non, c'est remarquable. Et c'est son dernier livre. Ils sont tous très, très beaux. Et celui-là, j'ai l'impression qu'il les surpasse encore tous.
C'est l'histoire de quoi, en quelques mots?
Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Nathan, qui n'est pas un enfant désiré, qui mène une enfance morne et tout, jusqu'à ses 9 ans, où il rencontre un personnage extraordinaire qui vient de Roumanie, mais ça, il ne le saura que beaucoup plus tard, et qui fait le métier d'artiste de rue sur des échasses et qui le fascine, et il passe plusieurs années ou mois, je ne sais plus vraiment, en compagnie de cet homme extraordinaire qui est un peu comme un ange. En même temps, c'est quelqu'un qui a aussi souffert. Et puis l'histoire s'arrête, et brutalement, lorsque Nathan a 40 ans, il se souvient de cette histoire parce qu'il a été coupé de cet homme qu'il adorait. Il y a un cheminement. C'est toujours un peu initiatique, c'est toujours... Mais c'est vraiment très, très, très beau.
Vous en parlez sublimement bien, Simone Hérault. Et de mon côté, moi, je voulais vous conseiller un autre livre qui va s'ajouter à votre bibliothèque, qui s'appelle Casabianca. Il est signé Jacques de Saint-Victor et publié aux éditions des Équateurs. Bonjour Jacques de Saint-Victor.
Bonjour.
Et merci d'être en studio ce matin avec nous. Alors, je déteste présenter les livres, j'ai toujours peur d'en dire un peu trop ou pas assez, donc je me lance et puis vous m'arrêtez au moment où j'en dis trop. Elle est italienne, il est français, il décide de fuir le tourisme de masse et il cherche un point d'ancrage, une maison à eux. Il la trouve en Italie, dans les Pouilles, c'est un couvent en ruine qui se trouve abriter un cercle de jeux. Ça va jusqu'ici?
Oui, parfait,
j'en ai pas trop dit.
Fait,
c'était quoi le point de départ de ce roman, l'envie de retourner en Italie? Je précise que vous êtes historien et spécialiste de ce pays.
Oui. C'était l'envie de retourner en Italie, mais surtout l'envie de s'attacher à cette terre particulière, parce que c'est pas l'Italie comme on l'imagine en général. Quand on est français, l'Italie c'est plutôt la Toscane, c'est plutôt les lacs, c'est plutôt le Nord, Rome, Capri à la rigueur. Mais là, c'est une autre Italie, qui est d'ailleurs beaucoup plus proche de la Grèce que vraiment de l'Italie, c'est de l'ancienne Grande Grèce. Et non seulement c'est une sorte d'Italie de l'enfance de notre civilisation, mais ce qui m'a beaucoup marqué, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre, c'est que ça m'a rappelé l'histoire aussi de mon enfance. C'est-à-dire que j'ai retrouvé cette France des années 70 que j'ai connue quand j'étais jeune, et bien je l'ai retrouvée vivante dans ce sud de l'Italie. Alors la question qui se pose, c'est: est-ce que c'est parce que je me suis fait un film, je me suis reconstitué ou re... Mais ça, je dirais non, parce que quand je retourne dans la France de mon enfance, je ne la retrouve pas du tout. Donc, si vous voulez, c'est vraiment autre chose. Et alors, la question, c'est quelque chose qui marque beaucoup, parce que c'est une expérience. Est-ce que cette Italie-là, parce qu'elle a 40 ans de retard par rapport à nous, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et c'est un peu cette quête-là que j'ai essayé de retracer, mais de manière aussi un peu romanesque, c'est-à-dire raconter l'histoire de cette restauration d'un couvent, parce que c'est assez compliqué.
Oui,
faut bien oublier, faut pas oublier
qu'il y a la mafia qui n'est pas très très loin.
Oui, voilà, c'est un petit village dans le sud du Salente. Cette région est la région qui a vu naître, il y a maintenant quelques années, la quatrième mafia des Pouilles. Et précisément dans ce village, la maison d'en face est la maison qui a été occupée par le boss de cette famille. Donc, il y a toujours eu pas mal d'interrogations. Quel est ce cercle de jeu? Avec qui est-il lié, etc., etc.
Sophie Moon, c'est une région que vous connaissez
ah,
bien.
J'adore. Hein. Il y a un ancrage familial dans les Pouilles, mais c'est encore l'Italie. Effectivement, d'antan, c'est très campagnard. Il y a des terres très, très rouges. Mmh. Et elle est encore préservée du tourisme.
Enfin, dans
selon les
régions.
Endroits. Oui, selon les endroits.
C'est
et ça, c'est. Voilà. Et il y a quelque chose. On est dans l'âme italienne. Mais c'est aussi violent. Hein. C'est une région violente dans son âme, quoi. C'est
bon.
Voilà. C'est de la campagne, mais c'est sublime. Sublime.
Et qu'est-ce qui se fait qu'il y a un attachement des Belges à cette région? Parce que Jacques de Saint-Victor, j'ai l'impression que c'est un ancrage aussi belge.
Il y a beaucoup de Belges, en effet, dans le sud du Salaise.
On a pas mal d'immigration belge ici, italienne en Belgique. Donc, du coup, il y a effectivement un pont qui s'est naturel
et vaste communicant. Je connais très mal les familles royales, mais je crois qu'il y a une des reines de Belgique qui était de cette région.
Exactement, voilà. La reine Paola,
qui est italienne. Voilà,
c'est tout à fait.
Alors, c'est aussi une réflexion, justement, on en parlait sur le tourisme de masse et sur le fait que c'est difficile aujourd'hui de trouver son petit paradis à soi et sa terre.
C'est terrible cette réflexion, parce que évidemment, on est tous touristes, donc c'est quand même très, très délicat de dire on fuit le tourisme,
parce qu'on est tous
touristes. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être une réflexion à mener aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit, hein, c'est pas uniquement moi, il y a beaucoup de gens qui commencent à se dire que ça devient très difficile, parfois même ça ruine les lieux. Il y a des associations qui sont créées, il y a une ville assez connue dans le sud de l'Italie qui s'appelle Gallipoli, qui est une sorte de Saint-Tropez local, et ils ont constitué un comité de libération du tourisme, un peu comme à Barcelone, un peu comme parfois je vois même à Paris maintenant, on a aussi ce genre de réflexion. Donc il y a quelque chose en effet qui est aujourd'hui devenu problématique. Alors nous, j'ai pas un combat contre le tourisme, loin de là, mais c'est simplement que nous, on avait déjà cette prévention et on a besoin de se retrouver vraiment entre nous. Donc, c'est un tout petit village, il est complètement en dehors des réseaux touristiques, il n'y a pas grand chose à voir. Donc, et on s'y est retrouvé vraiment remarquablement bien. Voilà. C'est une manière de se retrouver aussi soi-même. C'est les vacances, c'est peut-être aussi pour ça. Et pas simplement voir des lieux avec des milliers de cars et des milliers de touristes.
Exactement, et vous l'avez dit, ce retour en vacances permet aussi de revenir sur son enfance. C'est un très beau roman, vraiment, et pas seulement parce qu'on est aussi en Italie et que ça nous fait voyager. Merci beaucoup, Jacques de Saint-Victor, d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous ce matin. Je rappelle que votre livre Casabianca est publié aux très bonnes éditions des Équateurs. Je vais vous l'offrir, Simone, parce que c'est un très beau livre.
je vais partir en vacances.
Voilà, super. Dans un instant, on
en
va
train,
continuer.
Bien sûr.
Bah évidemment, on continue de partager nos coups de cœur cette fois sur écran, toujours avec Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. À tout de suite sur Europe 1.
On prend le temps, on se détend avec le club de l'été sur Europe 1.
2 heures de direct tous les matins de 9h à 11h avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Moon. C'est le principe, vous le savez, du club de l'été sur Europe 1. Et ce matin, c'est la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF, qui nous accompagne. Quand on vous a demandé quelle était votre série préférée, Simone, vous nous avez répondu ça.
Je vous attendais dans mon bureau il y a 20 minutes.
Tiens, c'est drôle parce que j'avais aucune intention d'être dans votre bureau il y a 20 minutes.
Vous croyez peut-être qu'on n'a rien à dire ?
Non, je crois juste que ça ne va pas m'intéresser.
Votre chèque, c'est moi qui le signe.
Je suis fonctionnaire. Vous allez agripper ma canne et m'empêcher de partir ?
Ce serait puéri.
Docteur House, série médicale qui raconte l'histoire de Gregory House, un médecin brillant mais au caractère détestable, qui a le don d'éclaircir quand même des mystères médicaux là où d'autres ont échoué. Pourquoi est-ce que ça vous plaît tant cette série, Simone Hérault ?
Oh, moi je l'aime, d'abord parce que je lui trouve un charme infini. Je sais qu'il chante aussi, j'ai écouté une fois ou deux.
Il est génial.
Hugh Laurie.
Et j'aime ce côté iconoclaste, ce côté provocateur, tout ce que je n'arriverais certainement pas à faire dans la vie, il le fait pour moi, donc ça c'est sympathique.
C'est bien.
Hein, voilà. Et il est, oui effectivement, il arrive à résoudre des mystères, il malmène d'une manière effroyable ses internes, mais en même temps, il leur assure un brillant avenir quand il les aime bien.
C'est vrai.
Mais il est génial, cet homme-là, il est génial.
Donc c'est plus pour le personnage que pour le côté série médicale. Vous regardiez pas Urgence et Grey's Anatomy particulièrement. C'est plus pour Hugh Laurie, en fait.
Oui, c'est plus pour lui. J'aime beaucoup regarder des opérations, des choses comme ça. Mais enfin, je vais pas passer mon temps devant ce que vous avez dit, là, Grey's Anatomy
et Urgence.
Urgence, peut-être, à l'époque.
Ah, c'était
mais
bien.
Uniquement pour...
Ah oui, mince, comment il s'appelle,
voilà.
Le beau gosse. Bah, il y en avait plusieurs de beaux gosses d'ailleurs.
C'est Hugh Laurie qui chante
là. Ouais. Ah, super.
Ah,
Ouais, j'aime beaucoup.
Vous savez que moi, j'ai passé l'anniversaire de Hugh Laurie à Bruxelles. J'étais avec lui.
C'est pas vrai.
Je vous jure, il était en concert à Bruxelles. Il a terminé la soirée dans un resto à Bruxelles. J'y étais. Et
Sophie, vous êtes incroyable.
Il a chanté devant tout le monde. Il a offert le champagne à tout le monde. Génial.
Je suis toujours là où il faut être, Sophie. Il est bien, je l'adore.
J'aurais bien voulu l'épouser, ouais. Mais bon, ah ouais, visiblement.
Ça c'est pas fait. Il est pas trop tard. C'est Georges Clooney qu'on cherchait. On ne connaît que lui, mais j'ai oublié son nom. Alors, de mon côté, je voulais vous conseiller un documentaire qui devrait vous plaire, Simone, qui sera diffusé sur Arte ce dimanche à 17h30. Et je sais que Sophie Massieu va approuver ce choix. Il s'agit d'un documentaire inédit intitulé Victor Hugo à Guernesey, exil et création, extrait.
En 1855, il y débarque pour un séjour qui durera une quinzaine d'années.
Si Guernesey est resté dans l'histoire aussi de l'œuvre et de la vie de Victor Hugo, c'est parce que toutes ses grandes œuvres sont datées de Guernesey.
C'est là aussi qu'est conservée une de ses créations méconnues, sa maison, Hauteville House. Elle a rouvert après 18 mois de restauration.
Il y a vraiment tout Victor Hugo projeté sur les murs et dans le décor. C'est le cerveau de Victor Hugo en trois dimensions.
Hauteville House, la maison Victor Hugo, donc passa son exil à Guernesey entre 1855 et 1870 et qui vient de réouvrir, on l'entendait dans l'extrait, après 18 mois de travaux. Et dans ce documentaire, on voit notamment à l'œuvre les restaurateurs qui ont effectué un travail extrêmement minutieux sur les tapisseries et les meubles de l'écrivain. Et on comprend bien aussi que la maison de Victor Hugo fait partie de ses œuvres au même titre que ses romans. C'est ici, face à la mer, qu'il écrivit et acheva Les Misérables et Les Travailleurs de la mer. Ce documentaire est une bonne approche avant, pourquoi pas, une visite sur l'île de Guernesey. Il suffit de prendre le bateau depuis Saint-Malo ou Granville. C'est 2 heures de traversée. En revanche, il faut absolument réserver à l'avance un créneau horaire pour la visite de la maison. Il se trouve que Sophie Massieu et moi avons visité Hauteville House.
C'est très drôle.
Sans nous concerter, à quelques jours d'intervalle, le mois dernier. Voilà. Est-ce que vous confirmez, Sophie Massieu, que cet endroit est incroyable?
Ben, Lise, on est d'accord là-dessus, je crois. C'est vraiment un endroit incroyable. L'ambiance formidable, il faut absolument aller visiter, effectivement. En effet, c'est pas simple d'avoir une place, donc il faut vraiment réserver. De mémoire, Lise, je sais pas si vous avez vérifié, du coup, l'information, mais je crois que ça ferme en gros fin septembre, donc il faut y aller assez vite. Il y a une petite fermeture de saison, quoi.
Oui, de saison.
Mais c'est vraiment... C'est l'ambiance, effectivement, on sent une atmosphère vraiment particulière, les décorations sont chargées, on voit aussi les photos des enfants, de la famille, on voit aussi l'importance qu'avait la famille... C'est vraiment un endroit incroyable à visiter. Et puis, du coup, tant qu'on y est, l'île, elle est vraiment chouette aussi. Oui. Moi, j'ai fait de belles randos par ailleurs. C'était vraiment
l'île est très chouette. On y mange bien et c'est assez sympa.
Les gens sont adorables.
Et rien que pour la traversée du bateau, ça vaut le coup. Simone Hérault, vous pourriez prêter votre voix pour les annonces dans le bateau qui va de Saint-Malo à Guernesey ou c'est pas une concurrence déloyale avec la SNCF, ça? Non? Moi, j'aurais
Alors,
aimé que
d'après
vous...
d'après mon contrat, je ne peux pas... œuvrer pour une entreprise concurrente de la SNCF. Donc, le bateau, si vous voulez, ça transporte des gens. Donc, non.
Ah,
non.
Mince, oui,
mais ça transporte sur l'eau. Il n'y a pas de rail sur l'eau.
Alors, on peut pas. En tout cas, ce documentaire Victor Hugo à Guernesey, Exil et création, est à voir ce dimanche 25 août sur Arte à 17h30. Il sera disponible ensuite en replay sur le site d'Arte jusqu'au 25 octobre. Simone Hérault, vous vouliez nous lire, alors non pas du Victor Hugo, mais un petit peu de Rimbaud.
Alors, Victor Hugo, juste... Victor Hugo, oui, nous aussi, à lire autrement, on en parle beaucoup.
Votre association de lecture
voilà,
publique.
Voilà, c'est une compagnie, sous forme d'association. Et on a notamment écrit tout un spectacle sur le merveilleux amour entre Juliette Drouet et Victor Hugo. Et d'ailleurs, Juliette l'a accompagnée.
Absolument,
la maison de Juliette est tout près.
C'est exactement. En fait, ce qui est très drôle, c'est que quand on est là-haut depuis son balcon à lui, depuis sa chambre, en fait, il a fait en sorte que la maison de Juliette soit visible. Donc le matin, il lui faisait
un
signe pour dire « je suis réveillée ». En fait, le rideau, c'était le signe de « c'est bon, on peut... » Voilà, c'est savoureux. Voilà.
Mais on peut passer de Victor Hugo à Rimbaud,
évidemment,
alors.
Évidemment, avec grand plaisir.
Alors, juste un petit poème ravissant pour faire le lien entre le train et la littérature. Rêver pour l'hiver. L'hiver, nous irons dans un petit wagon rose avec des coussins bleus. Nous serons bien. Un nid de baisers fous repose dans chaque coin moelleux. Tu fermeras l'œil pour ne point voir par la glace grimacer les ombres des soirs. Ces monstruosités hargneuses, populaces, de démons noirs et de loups noirs. Puis, tu te sentiras la joue égratignée. Un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou et tu me diras « cherche » en inclinant la tête. Et nous prendrons du temps à trouver cette bête qui voyage beaucoup.
Merci Simone Hérault.
Alors c'est un de ses premiers poèmes. Il était vraiment tout jeune. Il a écrit tout jeune, mais là c'était vraiment les premiers poèmes.
Merci beaucoup Simone Hérault pour cet extrait. Et dans un instant, c'est Elsa Lévy qui va nous rejoindre. Alors c'est un tout autre style, c'est la revue de presse féminine décalée. On la retrouve après Louise Attaque, les Nuits Parisiennes sur Europe 1.
9h, 11h, le club de l'été sur Europe 1.
Mais j'ai connu les booms, Guillaume de Tonquédec, et je regardais Gris chez mes grands-parents, donc bon...
Bah, vous êtes des grands chefs.
En 1966...
Oh la vache. Oh la vache.
Ah bah comment ça?
La voilà la chirurgie esthétique.
Lise Pressac.
C'est pas j'ai mis ce jingle jusqu'au moment de la chirurgie esthétique. Merci Loïc à la réalisation. Il est 9h52 sur Europe 1. Le club de l'été se poursuit avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Je vous présente Elsa Lévy. Alors, elle lit pour nous la presse féminine pour en retirer la substantifique moelle.
Exactement.
C'est ça, hein, Elsa?
Oui. Vous aimez bien cette expression?
Moi, j'adore.
Ouais. Alors, Simone Hérault, ça me fait très bizarre de vous rencontrer. Vous êtes la voix de la SNCF et moi, j'avais un grand-père cheminot. Wow. Et lorsque j'étais petite, je pensais que votre voix, c'était juste une voix, un peu comme dans les téléréalités et qu'il n'y avait personne derrière.
Ici, la voix.
En tout cas, votre voix, on l'associe au départ en vacances, aux retrouvailles sur un quai, mais aussi au retard des trains. Oui, parce que dans ce cas, c'est un peu à votre voix qu'on en veut. Et lorsqu'un train est arrêté en pleine voie, n'en parlons pas. Mais ces jours-ci, je pense que votre voix sera l'écho nostalgique des fins de vacances, mais aussi de la fin de cette émission.
Ici, la voix. Non. Ici, la voix.
Ah, c'était voilà, c'est c'était fini
voilà,
de Jean-Louis
Aubert.
Je
ne
vais pas vous le chanter parce que je le chanterai mal.
Loïc.
Voilà,
merci. C'est vraiment fini pour Loïc. Bref, et oui, la rentrée déprime les foules. Pourtant, il faut s'en réjouir.
Ah bon, et comment?
Eh ben, j'ai lu sur le magdesfemmes.fr que selon un sondage, dans ceux qui disent avoir passé des vacances de rêve, en réalité, 45% ont été mangés par les moustiques, les guêpes et les frelons. Donc on peut se réjouir de retourner dans les bureaux aseptisés, plus besoin de s'étaler des produits chimiques sur le corps pour éloigner les insectes. Aussi, selon ce sondage, 70% des vacanciers racontent que les gosses ont été insupportables. Donc là, ça y est, l'éducation nationale les prend en charge à nouveau.
Oh
en plus, je lisais dans
les
Femme Actuelle...
Les chiens ont été super sages en revanche.
Peut-être. Dans Femme Actuelle, on nous dit qu'à partir de cette année, l'école est obligatoire à partir de 3 ans contre 6, donc encore mieux.
D'autres statistiques qui donnent pas envie d'être en vacances, Elsa ?
Oui, 88% d'entre eux ont dormi sur une literie épouvantable. Donc, retrouver son lit, son chez-soi, tout simplement, ça n'a pas de prix.
Ouais.
Enfin, 36% se sont fait arnaquer par les vrais faux souvenirs authentiques de la région, alors qu'à partir
Made
de maintenant...
China.
On préférera se faire avoir par tout le reste, le coût de la vie en général, quoi. Les billets d'SNCF, non, je plaisante. 90%,
j'espère bien.
90% rentrent avec un découvert qu'ils mettront 6 mois à éponger. Bon, la rentrée ne rime pas forcément avec économie, mais depuis que l'impôt est prélevé à la source, c'est un peu moins violent. Le problème s'étale gentiment sur l'année. Voilà. Et finalement, ce qui me reste, il n'y a plus rien du sondage, mais ma propre étude me dit que si vous êtes célibataire, fini le supplice d'être seul pour les vacances. Si vous êtes en couple, fini l'overdose d'être ensemble. Et si vous n'êtes ni célibataire ni en couple, ben c'est qu'il y a un souci. Mais là, c'est hors sujet.
Vous avez d'autres bonnes nouvelles ?
Oui, le magazine Mademoiselle nous dit « Ne crains plus la rentrée ». Vous savez pourquoi ?
Non.
Car un nouvel anti-cerne chez Benefit sortira super. À cette occasion. Il s'appelle « Cakeless », car en anglais, pour l'excès de matière... On dit caquet. Et donc en français, j'en déduis que c'est la compression des mots caca et paquet.
Oh là là.
Caquet, donc. Alors un bon anti-cerne pour la rentrée, c'est super.
Ok. Un autre conseil pour nous aider à affronter cette rentrée, Elsa ?
Oui, on peut se projeter. Dans
Femme
Actuelle, on nous donne le calendrier des prochaines vacances. Donc ce sera le 19 octobre pour toutes les zones. Hélas, pas pour tous les métiers. Donc si jamais vous ne travaillez pas dans l'éducation nationale, on évite de projeter les prochaines vacances, c'est-à-dire les 2-3 ponts du mois de mai. Et on vit dans l'instant présent. Pour ce faire, on ne lit pas les magazines féminins qui ne jurent que par les bonnes résolutions de la rentrée, celles qu'on s'était fixées lors du nouvel an,
ah oui,
mais qu'on n'a pas tenues et qu'on a repoussées à septembre, et que là on va devoir repousser à janvier, ça on arrête. Et on ne lit pas non plus notre horoscope spécial rentrée. Il y a que ça en ce moment, car je ne suis pas astrologue, encore moins médium, mais je peux déjà vous annoncer à peu près à quoi va ressembler votre année. Alors d'ici quelques jours, les grèves vont reprendre.
Oh, arrêtez ce mauvais esprit.
Après, il y aura la Coupe du Monde de rugby, on va détester notre équipe, puis l'adorer, puis la maudire à nouveau, etc. D'ici 3 semaines, on va pouvoir commencer à choisir son déguisement pour Halloween. D'ici un mois et demi, on va entendre...
Arrêtez, c'est affreux.
Maintenant,
c'est pas Noël.
C'est la vie. Ensuite, on va pouvoir commencer à entendre parler de Noël, puis les régimes d'après Noël. Entre-temps, on aura la sortie de Terminator 6. et de Star Wars 9.
Oh là là.
Pour Star Wars 9. Après, on est en 2020. Alors, bonne année tout le monde, meilleurs vœux, etc.
Ok, pour 2020, des prévisions ? Allons-y.
Oui,
tant qu'à
d'abord,
faire.
On fera une petite détox à cause des fêtes.
Bien sûr.
Puis là, d'un coup, on va s'étonner qu'il neige en hiver. Alors, après ce scoop, il y aura la chandeleur sans vraiment savoir pourquoi on mange des crêpes. Puis Pâques, sans vraiment savoir pourquoi on mange du chocolat. Entre-temps, il y aura la journée des droits des femmes. Gros débat à prévoir sur oh là là, mais pourquoi c'est qu'une journée ? Puis, à partir de là, il commencera à faire beau. On va nous parler régime et détox. Après, il y a Roland Garros, puis l'Euro de foot. C'est de nouveau les vacances, la canicule, les régimes, les bouchons sur la route
Mon
et
Dieu.
La rentrée. Voilà,
voilà
en gros.
Oh là là.
Mais oui. En fait, c'est tout pourri, hein, nos existences.
C'est le cycle
quand
éternel.
Quand
oui,
on
enfin,
y pense.
Voilà quoi. C'est un voilà. running gag. Donc, ça s'appelle la vie. Alors, ne voilà. projetez rien. Stop la déprime. Bonne rentrée à tous. Et n'oubliez pas, si la rentrée n'existait pas, les vacances non plus.
Ah oui, ça, c'est une bonne conclusion. Merci.
J'adore la chute.
Merci beaucoup, Elsa Lévy. Et merci beaucoup d'avoir été à nos côtés tout l'été pendant ces deux mois.
C'était chouette.
C'était chouette ce club. Ça a été un plaisir de vous avoir pendant ces
on
deux mois.
On vous embrasse,
mois.
Elsa.
Bah oui, un gros bisou.
Ouais, merci à vous.
Je déteste c'était les super. Au revoir. Je crois que ça va être comme ça pendant encore une heure. Restez avec nous. Le club de l'été se poursuit jusqu'à 11h. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 9h-11h, le club de l'été. Lise Pressac.
Bienvenue dans la deuxième heure du club de l'été sur Europe 1. Nous sommes toujours en direct jusqu'à 11h pour partager nos coups de cœur culturels et gastronomiques. Vous n'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, notamment si vous avez un message ou une question pour notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Sophie Massieu, grâce à vous, nous allons faire un petit tour dans le Perche. Où exactement est-ce que vous allez nous le dire ?
Nous irons dans un hara, mais je vous dirai toujours pas lequel.
Bon, très bien, on en sait déjà un petit peu plus. Sophie Mounz, qu'est-ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on boit ce
on
matin ?
On va boire oui. du bon cidre et Simone nous en a apporté mais une
oui,
bouteille.
C'est
on peut voir ce que vous avez apporté, Simone ?
Oui, bien sûr, c'est du
quoi
cidre. D'une entreprise qui vient du Perche, bien sûr, c'est de l'Hermitière exactement,
wow.
qui est un, et c'est bio et le bâtiment s'est fait artisanalement et le bâtiment est haute qualité environnementale.
Ah, mais ça va
et
pas
le
pas
bouchon
a sauté.
Et je vous promets que c'est pas du champagne, c'est du cidre.
Oh la vache, bon à tout.
On a perdu Sophie. Sophie Mounz, ça y est parti.
Le club de l'été sur Europe 1.
Lise Pressac.
On travaille dans des conditions très dangereuses. Alors, j'ai failli me prendre un bouchon dans les yeux. Simone Hérault, je vous propose d'embarquer dans notre machine à remonter le temps musical. Savez-vous quelle chanson on chantait en 1972 quand vous entrez à FIP ?
Alors, il devait. Je
ah, ça devait
pense
pas passer
que...
sur FIP, mais bon.
Ah bon ah, peu... ah bah pourtant, alors sur FIP, on a été découvreurs de talents extraordinaires.
Mais là, je sais pas si c'est un talent
celle-là.
Vraiment.
Ah, non.
Dites-nous, à quoi vous pensiez ?
Ah ben moi, je pensais par exemple à Alain Souchon, dont on a énormément fait la promotion.
Ouais, bah,
enfin,
serait...
promotion parce qu'on aimait. Oui. C'était pas de la promo au sens où on l'entend actuellement. Hein.
Non, mais c'est... Ouais, on aurait préféré que ce soit Alain Souchon. Ça, je pense que ça passait pas sur FIP.
Non.
Hot butter popcorn. Alors, en 81, quand vous devenez la voix de la SNCF, l'été, on écoutait plutôt ça. She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. C'est Kim Cairns avec Bette Davis Eyes. C'est déjà mieux. Enfin, quand en 2001, vous fondez la compagnie de lecture publique Lire Autrement, nos oreilles... Alors, souffrez avec ça, on fait plaisir à Loïc, mais bon, ouais.
Oh là 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 là.
Ah, c'est très très dur. Vous écoutez quoi comme musique, Simone Hérault ?
Pas ça.
Pas bon,
mon avis.
De plus en plus, mon amour de musica va vers le classique. C'est drôle, il doit y avoir une question d'âge. Ou sinon, la chanson française, oui.
Voilà, on est plus,
toujours,
sur,
oui.
plus sur du Alain
oui.
Souchon.
Ou les Beatles, parce que j'aime toujours les Beatles.
Ah bah oui.
Puis c'est ma jeunesse.
Après ce voyage dans le temps, Simone Hérault, je vous propose un voyage tout court dans une région qui vous est chère. Le Perche, à tout de suite sur Europe 1.
9h-11h, le club de l'été sur Europe 1. All you
need is love. Oh, c'est gentil ça.
Merci Loïc à la réalisation. On sait faire plaisir à nos invités, Simone Hérault.
Très gentil.
Nous sommes toujours en direct sur Europe 1. Il est 10h12 et nous sommes ensemble jusqu'à 11h avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF, et mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Alors avant d'aller faire un tour dans le Perche, Sophie Massieu, c'est l'heure de votre journal de la culture. Direction la côte est du Cotentin qui propose un festival dénommé les Traversées de Tatiou. J'adore ce nom. Et ça commence aujourd'hui.
Absolument. Tatiou, en fait, c'est une île au large de Saint-Valaouge, un autre mot que vous pourriez
J'adore.
Aimer. Et tous les ans, pendant les grandes marées du mois d'août, un festival de musique du monde y est organisé. On va donc sur l'île à pied.
Oui.
Et les horaires des concerts sont en fonction de ceux...
Des marées.
Bravo, ouais. Je vois que vous suivez. Merci, ah oui. Lise. Il y a aussi des concerts à quai, comme on dit là-bas. Autrement dit, dans les villages voisins. Notamment une soirée normande qui sera un peu le clou du spectacle, le 31 août à 21h, donc à Saint-Vaast-la-Hougue, le petit village d'à côté. Notez aussi des concerts promenades, et c'est ça qui est chouette, sur l'île cette fois, les 30 et 31 août, à 14h30. Les tarifs, ils sont autour de 10 euros par concert, hein, c'est pas très cher. Et l'abonnement devient intéressant à compter de 3. Alors, le Festival des Traversées de Tatillou, je vous le rappelle, se tient d'aujourd'hui 23 août au 1er septembre. Et s'il n'y a pas vraiment de grosse tête d'affiche, franchement, l'expérience vaut d'être tentée.
Alors, autre expérience qui sort des sentiers battus, vous nous invitez, Sophie, à découvrir une galerie éphémère à Lyon.
Alors oui, voilà, tout autre coin de France. Et cette galerie éphémère, elle se situe dans un immeuble désaffecté de la Croix-Rouge qui devrait être prochainement réhabilité. Et en attendant, sur 3 étages et pour la 2e année consécutive, des artistes français et internationaux exposent et s'exposent. Alors qu'est-ce qu'on voit ? Des tatouages, des illustrations, des photos, des graffitis ou encore des animaux en taille réelle en résine. Et d'ailleurs, ça s'appelle le Zoo Art Show. On le visite au 61 rue de Créqui, c'est dans le 6e arrondissement de Lyon. Et on y accède gratuitement le week-end de 14h à 18h. Et ceci jusqu'au 29 septembre. Si on préfère suivre une visite guidée, c'est aussi possible. Ça, c'est le matin, c'est à 10h. Et c'est payant, ça vaut 10 euros pour les adultes et 5 euros pour les enfants de 3 à 12 ans. Mais peut-être, ça me semble être une bonne idée, moi en tout cas, un vrai plus pour ceux qui peut-être sont moins familiers avec l'art contemporain. Oui, parfois, on a du mal à... Je ne sais pas, à décrypter, à resituer.
Et accéder, ouais. Donc là, ça permet d'accompagner en tout cas. Votre dernier journal de la culture, Sophie, se ferme sur une page littéraire.
Eh oui, sur une double page en fait, un petit peu en hommage à notre invitée aussi, hein, puisqu'elle parle beaucoup de lecture. D'abord, je voulais vous signaler la parution, pas plus tard qu'hier, de Mauvaises blessures, un roman du rappeur érudit Abd al-Malik. Le roman met en scène Camille. Bon, Camille, Malik, vous l'aurez compris, c'est un anagramme de son prénom. Toute ressemblance avec des gens, nanana. L'auteur parle d'ailleurs d'autofiction dans ce roman où un rappeur français, noir, musulman, encore une fois, toute ressemblance, se raconte et raconte son attachement à la France, à la culture de la France. Il dit aussi combien la littérature peut vraiment transformer un homme. Ça a été important pour lui. Je vous propose qu'on l'écoute un peu brièvement, malheureusement, expliquer le choix du titre de son livre.
Mon ouvrage s'intitule « Méchante blessure » parce que je pense profondément que notre parcours de vie, pour finalement faire en sorte que notre cheminement se passe de la meilleure des façons, il s'agit de guérir les blessures intérieures, de guérir les traumatismes liés à notre histoire.
Encore.
Et je pense qu'encore une fois...
Encore une bien jolie voix, pardon. Je me suis dit, tiens, où est-ce qu'on s'arrête ? Pardonnez-moi. Encore une bien jolie voix, mauvaise blessure... Oui, c'est ça.
C'est ça, c'est le titre Mauvaise blessure d'Abd al-Malik.
T'es perturbé par sa voix. Comme quoi, les voix, comme la littérature, peuvent avoir beaucoup d'effets sur nous. Mauvaise blessure d'Abd al-Malik est sortie ce 22 août aux éditions Plomb et ça coûte 19 euros.
Ah, on est le 23, hein, Sophie, mais bon, c'est sorti hier, donc c'est tout frais.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit
aujourd'hui, mais c'est pas grave, tout va bien. Après un roman, place à un
essai. Je suis fatiguée, c'est la dernière.
Mais non, il faut rester encore un petit peu. Après un roman, place à un essai inédit.
Et oui, cela vous a peut-être échappé cet été, le 3 octobre prochain, un dernier livre de la Nobel de littérature, Toni Morrison, qui nous a quittés début août, sera publié en français. Le titre « La source de l'amour propre ». C'est le 6e essai de l'écrivaine, traduit par Christine Laferrière et qui sera édité par Christian Bourgois. Il est paru en février dernier aux États-Unis et l'auteur y traite de sujets de société contemporains qui lui ont toujours été chers, à l'image du racisme, de la xénophobie, de la place des minorités dans la société américaine ou encore de l'émancipation des femmes. Elle revient aussi dans cet ouvrage sur son œuvre. Bref, nous serons, je pense, très nombreux à nous jeter dessus et à vouloir le lire. Lisez votre livre préféré, vous, de cet auteur, c'était quoi ?
C'est pas le plus gai, c'est Beloved. C'est l'histoire d'une mère qui égorge sa fille par amour pour lui éviter de devenir esclave. C'est ce livre qui lui avait valu d'être Pulitzer en 88.
Ah oui, alors moi, c'était Home, paru bien plus tard, en 2012. Je vous propose qu'on lise ces deux livres dans nos sacs, soit de plage pour ceux qui sont encore, soit dans nos petits cartables de rentrée. Qu'est-ce que vous en dites ?
Évidemment, c'est une très bonne idée. Simone Hérault, vous avez fondé en 2001 Lire Autrement. C'est une compagnie de lecture publique animée par des comédiens et des musiciens professionnels. Quelles sont vos activités exactement ? D'ailleurs, vous êtes venue accompagnée de Jacques Pagnès, qui est président de Lire Autrement. Qu'est-ce que vous faites exactement dans cette compagnie ?
Alors, ce sont des spectacles littéraires que nous proposons à toutes sortes de publics. Et les lieux sont très, très différents. Ça peut être un grand théâtre comme carrément la salle Gaveau, ou un tout petit café. C'est là qu'on a commencé d'ailleurs, place Stalingrad. C'est le premier petit café qui nous a accueillis pour faire des lectures très, très intimistes il y a 20 ans. Aujourd'hui, on lit dans des centres culturels, dans des théâtres, dans des cinémas. On lit un petit peu partout où on nous demande. Et on lit beaucoup dans le 14e arrondissement à l'Agora, qui est un lieu qu'on peut définir comme une biosphère culturelle. En tout cas, c'est son directeur qui l'intitule comme ça et qui accueille toutes sortes de personnes pour le bien-être, pour le bien-être de la tête et du corps aussi. En tout cas, nous, c'est uniquement la tête.
Voilà.
et voilà, nous faisons des lectures musicales. On met en scène un auteur ou plusieurs auteurs, des lectures thématiques. Des lectures avec les grands personnages. On en a fait d'ailleurs des CD, hein, des lectures musicales de notre composition avec des musiciens live. Et c'est quelque chose de formidable. On a fait de la lecture un spectacle vivant. Les gens oublient que c'est de la lecture. On est plusieurs comédiens sur scène avec des musiciens. Et un exemple, entre autres, en 2020, c'est l'anniversaire de la naissance de Boris Vian.
Oui.
Et voilà, on a un spectacle jazz avec évidemment des textes de Boris Vian et j'adore ça.
Alors, littérature et musique, ce sont deux thèmes qu'on aime ici aussi dans le Club de l'été. Je vous propose d'écouter La Rua Madureira, Bon Entendeur sur Europe 1.
9h, 11h,
le Club de l'été sur Europe 1.
Alors, tu n'as pas le droit de passer ce que je vais dire hors antenne.
Alors, on se demande bien pourquoi.
Et toi, t'en as des hémorroïdes ? Et sinon, oh non, le 69, moi j'ai arrêté.
Ouais, d'accord, ouais, très bien, je vois très bien, absolument. Oh, oui.
Tu deviens de plus en plus perfide au fil de la semaine.
Lise Pressac.
Il est temps que ça s'arrête.
Alors, c'est Gérard Depardieu et Michel Houellebecq qui parlent de ça dans Thalasso, c'est pas moi évidemment. Il est 10h23, c'est la suite du Club de l'été sur Europe 1 avec Sophie Massieu et Sophie Muntz. Nous sommes toujours en bonne compagnie avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF.
Moi aussi je suis en bonne compagnie.
Bah ouais, hein. On est bien
je
là.
Je trouve super toute.
Vous avez choisi de partir dans le Perche ce matin. Pourquoi cette région vous est si chère, Simone ?
Alors cette région, pardon, mais chère parce que...
C'est pas
que...
du facile à dire.
Pas parce que c'est aux régions, mais chère. Parce qu'il y a 30 ans, oui, avec le père de mon fils, on a acheté une petite maison totalement par hasard dans cette région, qui est devenue effectivement une région de cœur. Voilà, on a une jolie petite maison et est-ce que c'est maintenant que je parle ou est-ce que je laisse...
Non, que vous vouliez
je voudrais dire que surtout, il y a beaucoup, beaucoup de convivialité, en tout cas pour dans certains petits villages alentours. Il y a de très, très jolies choses, mais ça, je pense qu'on va les évoquer.
On va en parler avec Sophie Massieu.
Il y a une animation culturelle absolument incroyable. Quand je suis dans le Perche, je sors plus qu'à Paris.
C'est vrai ?
Oui, et à Paris, il y a trop de choix.
Au final, on ne va rien voir.
Et donc, là-bas, c'est extraordinaire. Il y a par exemple un petit village qui s'appelle Préau-du-Perche, mais un petit village qui est ravissant, bien restauré, mignon comme tout, pas touristique, un vrai village, avec un petit restaurant qui s'appelle le Relais Saint-Germain. Et par exemple, tous les vendredis, il y a des concerts de jazz, de
donc
rock.
Aujourd'hui, il faut y aller.
C'est extraordinaire. Ah non, aujourd'hui, c'est fermé. Ils sont en vacances, ils
soufflent
un petit peu quand même. Dans les petites églises à côté, il y a des concerts. Il y a vraiment des animations culturelles partout. Il y a énormément d'artistes, qu'ils soient parisiens installés dans le Perche ou non, qui proposent, qui sont peintres, qui sont céramistes, qui sont écrivains. Il y a Patrick Barr, qui est un écrivain et photographe, notamment, qui habite dans ce petit village. Il y a aussi l'Ermitière, qui est très jolie. Il y a aussi la Perrière, qui est un très joli village. Voilà. Il y a beaucoup de choses très sympas.
Il y a une grosse vie culturelle, en tout cas.
Une grosse vie culturelle et beaucoup de convivialité. On a des amis partout dans ce petit coin.
Alors, et le Perche est aussi connu notamment pour une race équine, le Percheron, Sophie.
Et oui.
Et voilà pourquoi je vous emmène dans le Haras du Pin, dans l'Orne, fondé par Louis XIV. C'est l'un des plus anciens haras nationaux. Si aujourd'hui, on n'y fait plus d'élevage, on perpétue l'amour de ces petites bébêtes, de ces grandes bébêtes, et on y organise des courses, on les présente aux visiteurs, etc. etc. N'est-ce pas, Jean Chevret ? Bonjour, monsieur.
Oui, tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au Haras.
Merci. Eh bien, merci, merci. Alors, peut-être commencer par parler un petit peu des caractéristiques du cheval percheron, parce que si voilà, c'est un cheval de trait qui a eu beaucoup, beaucoup d'usages.
Alors, en fait, son origine remonte au 8e siècle avec les comtes du Perche. Bien que le Perche soit une petite province, le cheval a eu une renommée mondiale par la suite.
Et pourtant, il a failli disparaître hein, dans les années 70, je crois. Et notamment, votre haras a permis qu'il soit préservé, c'est bien ça ?
En fait, son registre d'élevage a eu lieu vers 1880 sur l'impulsion des Américains, qui étaient des acheteurs, en fait, ils n'étaient pas éleveurs. Et par la suite, là, on va vers les années 1608 et 1627, puisqu'il y a eu, on était déjà dans les migrants, puisqu'il y a eu une émigration importante vers ce qu'on appelait la Nouvelle-France, c'est-à-dire le Québec. Et là, percherons, hommes, chevaux, femmes et enfants sont partis travailler les terres et ont emporté, bien sûr, leurs chevaux, qui se sont croisés avec quelques juments. Et là, on a eu un autre cheval, bien souvent noir, et qui est revenu en France par trois achats des haras nationaux.
Alors aujourd'hui, il est tellement réhabilité que vous organisez un championnat de France du percheron le dernier week-end de septembre au Haras.
Tout à fait. Donc les 27, 28 et 29, donc septembre, évidemment, il y a le championnat de France du percheron, comme chaque année. Donc ça commence dans la cour d'honneur avec les mâles qui passent devant un jury pour être approuvés étalons. Enfin, c'est un événement qui colle au haras. Ça fait partie de son âme. C'est vraiment à ne pas manquer et c'est gratuit comme accès.
Et pourquoi est-ce qu'on ne fait plus d'étalonnage dans un haras national ? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait de l'élevage ?
Là, c'est autre chose. L'État a jugé que ce n'était plus nécessaire la mission de reproduction des haras nationaux, puisque le privé le fait très, très bien. Mm-hmm. Et donc, il y a toujours un contrôle, les registres d'élevage, le CIR à Pompadour qui s'occupe des livrets, de tout ce qui est identification et autres.
Alors, quand on vient vous voir, on peut visiter à la fois le haras, le château, les écuries, tout ça est ouvert et accessible.
Oui, alors, on peut y passer. Donc, nos deux missions aujourd'hui, c'est les compétitions sportives, qui sont bien souvent gratuites d'accès, et aussi le développement du tourisme. On a énormément de touristes tous les ans. Ces derniers peuvent assister à des spectacles. On a de nombreux spectacles à la fois en intérieur dans le superbe manège d'or 18e siècle, qui a été d'ailleurs restauré grâce au conseil départemental de l'Orne. Et puis on a aussi nos fameux jeudis du pain. Là, c'est une présentation extérieure où on présente toute race de chevaux.
Alors, on vient le jeudi pour la présentation des chevaux. On y va aussi le mardi. Sophie, c'est pour vous. Pour la balade gourmande, c'est la dernière de l'été, mardi prochain.
Oui.
Le haras du pin est donc ouvert tous les jours de 10h à 18h. L'entrée est à partir de 5 euros pour les enfants, de 8 pour les adultes. C'est calculé un peu en fonction du nombre d'activités que vous choisirez. Poney pour les enfants, visite guidée, etc. Pour y aller, il vous faut vous rendre donc dans l'Orne, dans le village, le pin au haras. Merci beaucoup, monsieur.
Merci, très bonne journée.
Merci à vous.
Merci Jean Chevret d'avoir été en direct avec nous ce matin. Vous travaillez au haras du pin. Dans un instant, Sophie Mounz va nous parler de cidre et ce sera le dernier épisode de la saga consacrée aux pâtes que le monde nous envie. A tout de suite sur Europe 1.
Le club de l'été sur Europe 1. 9h, 11h. Lise Pressac.
C'est la suite du club de l'été en direct avec mes acolytes Sophie Massieu et Sophie Mounz. Ce matin, nous sommes en compagnie de la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Simone, est-ce que vous êtes gourmande ?
Oh oui.
Oh oui, dit-elle.
Ça, je dis que, oh oui, hélas, beaucoup trop.
Sucré, salé, tout.
Tout.
D'accord. Okay.
Et là, Simone passe. Nous a apporté un cidre du Perche, s'il vous plaît, l'ermitière.
Voilà.
C'est Nathalie et Dominique Plessis, ils sont producteurs récoltants. C'est un tout beau travail, c'est biologique. Et puis, je crois qu'ils ont même des bâtiments qui ont été construits selon des normes environnementales.
Oui,
donc, ils poussent vraiment la démarche très, très loin.
Et même, ils accueillent aussi des troupes de théâtre. Il y a de la musique. Enfin, c'est très, très chouette.
Mais on va quitter le Perche, vous n'êtes pas fâché?
Un petit peu, mais bon, ça va aller.
On part dans le Morbihan.
Ah, c'est bien aussi.
Le cidre,
le Morbihan. Plus nord, nous rejoignons Jacques de l'Épineau. Bonjour Jacques.
Bonjour,
bonjour
madame,
quel,
bonjour à tout le monde.
On est à Pluneret, dites-moi quelle belle histoire familiale que la vôtre. Vous avez quitté le sud de la France pour la Bretagne,
exact,
pour vous lancer dans la production de cidre, avec une véritable philosophie derrière ça. Il s'agissait de planter des arbres aux tiges dans vos vergers. Racontez-nous cette belle histoire, Jacques.
Oui, exactement. Je suis revenu dans le Morbihan à Pluneret, au fond du golfe du Morbihan, merveilleux pays, pour replanter un verger de pommes avec des variétés autochtones, variétés très locales. Et c'est ça qui m'amusait, et surtout de redonner un visage traditionnel au pays au bord du golfe.
On est au verger de Cardanel, hein, je n'ai pas signalé. Vous savez, Lise, on a, dans les années 70-80, on a connu une vague d'abattage de pommiers aux tiges, parce qu'ils étaient moins productifs. Donc, ce qu'a fait l'industrie, c'est planter massivement des pommiers bastiges. Évidemment, vous l'imaginez, ces bastiges, donc pour la cueillette, c'est évidemment beaucoup plus facile. On est tout à fait aux antipodes avec la démarche de Jacques. Alors Jacques, des cidres, il y a cidre et cidre, il y a des démarches tout à fait différentes selon qu'on soit industriel ou artisan récoltant comme vous. Racontez-nous, c'est quoi finalement la différence? On parle évidemment de jus de pommes fermentées, mais encore.
Oui, tout à fait. Alors moi, je suis partisan, je suis producteur récoltant. Hein.
D'accord.
Un artisan, c'est quelqu'un qui achète des pommes et qui les transforme.
Vous faites bien de le dire, oui, c'est vrai.
Il n'a pas toute la chaîne. Nous, on essaye de faire, on fait d'ailleurs un cidre traditionnel, comme faisaient les anciens, mais avec des outils modernes, et qui permet de rendre toutes les goûts et les saveurs de la pomme dans le cidre, avec des arômes fermentaires.
C'est ça. Donc
très
vous...
agréable.
Donc
pardon,
il s'agit d'un cidre fermier, pour qu'on comprenne bien. Tout est
exactement,
fait à l'exploitation.
Tout est fait à la maison.
Voilà. Alors quand on parle de cidre, on parle évidemment de jus, enfin de moût de pomme fermentée. Dans votre approche, c'est que du jus. Il faut savoir que dans l'industrie, Lise, on peut travailler sur des concentrés de jus avec des additions d'eau. On est sur des pasteurisations, donc on va chauffer tout ça. Il y a quand même des petites choses qui sont rajoutées. Il y a de la gazéification. C'est pas le cas chez vous, hein, quand on
est dans
des cidres fermiers.
Exactement. Dans les cidres fermiers, on respecte le produit et donc on fait notamment une prise de mousse naturelle. Donc
c'est
la fermentation continue en bouteille et c'est elle qui va donner l'effervescence. Et c'est le point délicat parce que les levures, on les dirige pas comme un animal.
Bien
donc c'est
sûr.
Là où c'est un peu délicat et c'est pourquoi les grands faiseurs ne font pas ça parce qu'il y a trop de risques.
Et ça prend combien de temps d'élaborer un bon cidre à l'ancienne, j'ai envie de dire?
Alors, il faut au moins 6 mois.
Ah oui.
La grande partie donc en fermentation en cuve ou en fût, hein, selon ce que les gens veulent. Et après, il y a encore 2 à 3 mois de fermentation en bouteille pour qu'il puisse devenir effervescent.
Et vous,
ça prend du temps.
Vous souffrez aujourd'hui la concurrence de ces cidres industriels qui tiennent quand même le haut du panier, non?
Non, pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes produits.
D'accord.
Alors effectivement, il y a de la pédagogie à faire et montrer aux gens que effectivement nous on est un peu plus cher, mais c'est pas la même chose, même si la base est la même. Mais on n'est plus rien à voir.
Et donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas bien cet univers du cidre, qu'est-ce qu'on doit acheter en priorité si on veut vraiment toucher du bout des papilles l'excellence des savoir-faire?
Oh, moi, à mon avis, il faut aller chez les producteurs, les gens qui sont passionnés et qui aiment ce qu'ils font et qui le font avec leur cœur. Et c'est ça qui est chouette. Et les cidres, il y en a de tous les horizons. Donc, on peut aussi bien avoir des bruts qui accompagnent les repas, des demi-secs, des fruités qui peuvent accompagner des desserts, l'apéritif, même des fromages.
Un bon camembert.
Et le doux qui reste plus particulièrement sur les desserts.
Wow.
Et chaque producteur, les cornouailles est différente, les vilaines est différente, la manche est différente, et c'est fabuleux. Il y a une diversité de cidres qui est extraordinaire.
C'est ça. Donc, faire la comparaison entre les cidres normands et bretons, c'est absurde, parce qu'en fait, il y a autant de cidres que de producteurs, finalement.
Exactement. On se retrouve exactement comme le vin.
Mais c'est formidable. Je vous aime. Vous savez ce que je fais? Non, mais moi, je trouve ça passionnant, des gens comme ça qui mettent du cœur à l'ouvrage, qui quittent des vies pour se lancer dans des aventures pas faciles et qui nous transmettent ces passions. Oui. C'est formidable, ça se passe au verger de Cardanel. On est à Pluneret, si vous êtes Pluneret, c'est ça comme
Pluneret,
ça Pluneret.
Pluneret, juste à côté d'Auray.
Voilà, dans le
Entre
Morbihan.
Entre la rivière du Bonneau et d'Auray.
Ah, mais donc si vous avez encore le bonheur d'être dans la région ce week-end, filez chez Jacques et Alix. C'est un joli duo pour des cidres qui ont de la gueule et on adore ça.
On adore ça ici. Merci beaucoup Jacques Delépineau d'avoir été en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Et je vous propose maintenant de partir à la découverte de 3 nouvelles destinations grâce à Sophie Massieu. A tout de suite sur Europe 1.
9h-11h,
le club de l'été sur Europe 1.
D'accord, oui.
Ah, tu ne pourrais pas changer de vocabulaire, dis.
D'accord, oui.
Eh ben, c'est pas gagné.
Lise Pressac.
Il a fallu combien d'émissions à Loïc pour avoir cette compilation? Je ne sais pas, beaucoup. 10 minutes. C'est moche. Le club de l'été se poursuit en direct sur Europe 1 et jusqu'à 11h avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Simone, à quoi ressemblent vos vacances? Vous êtes du genre à vous poser ou à visiter le plus de choses possible quand vous avez un peu de répit?
Je me pose, plutôt.
Vous profitez, oui, oui. C'est bien.
Je profite.
Et ben alors, avec Sophie Massieu, on découvre tous les jours 3 lieux sur une même thématique. Elle nous emmène un petit peu partout. Et alors, pour notre dernière émission, Sophie, vous sombrez dans le romantisme.
Mais absolument, mais ça tombe bien pour qui a envie de faire une pause. Mais c'est comme ça, c'est l'émotion.
Oh là là.
Ne plus vous voir tous les jours, à compter de ce jour.
Non, remettez-vous
ça
quand même.
Ça va être affreux.
Non, ça va bien se passer.
Alors, pour me faire une raison et prolonger les vacances, ou pour ceux qui y sont encore, j'ai choisi de vous suggérer des spots mémorables pour observer les couchers de soleil.
Je tombe en dépression, là.
Ah, je suis au bord de... C'est la fin.
Mais non.
Allez, la mer, à la montagne, vous devriez pouvoir vous régaler.
Allez, on se reprend au Pays Basque, d'abord.
Mais absolument, à Biarritz. Bon, alors...
En ce moment, il faut son badge.
Où
il
fait bon. Voilà. Mais en tout cas, c'est quand même, voilà, à partir de lundi, vous pourriez aller de nouveau le célèbre rocher de la Vierge. L'histoire raconte qu'un jour, des pêcheurs ont été pris dans une tempête. Mais une lumière divine, bien sûr, divine la lumière, les aurait ramenés au port. Alors pour remercier, ils ont fait ériger en 1865 une statue de la Vierge sur ce fameux rocher qui a été rattaché au continent à la même période, donc celle de Napoléon III, à l'époque par une passerelle en bois, remplacée peu après, parce que bien évidemment, elle n'a pas survécu aux vagues, hein, que les surfeurs savent quand même assez fort dans la région, remplacée donc par une passerelle en fer aujourd'hui très empruntée par les visiteurs et les habitants de ce joli Pays Basque. Donc un spot idéal vraiment pour regarder un coucher de soleil. Bon, mais le jour c'est bien aussi parce qu'on y a une belle vue sur les Pyrénées. Il y a quand même pire. Ce soir, les participants du G7, parce que c'est bien les seuls, pourront voir le coucher de soleil à 21h01.
Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc si on est couche tard, il faut aller...
à notre bout du monde d'hier. Un de nos bouts du monde d'hier, qui est quand même un des plus à l'ouest de France, sauf à aller sur Ouessant. Donc notre bout du monde d'hier, je vous le rappelle, c'était la Pointe du Raz. Alors là, vue grandiose sur la baie de Trépassé, de Douarnenez, d'Audierne, tout ça s'offre à vous. Et puis il y a cette île de Sein, à 8 km des côtes, qu'on voit aussi. Voilà, vous êtes entouré de bruyères, c'est la végétation locale et vous pouvez espérer à cette heure-ci normalement enfin profiter des lieux de façon un petit peu plus solitaire ce soir. On a bien dit que le soleil se couchait à l'ouest, donc il fera dodo plus tard là-bas à 21h22 et pas de G7, vous pouvez y aller.
Autre endroit incroyable, très très différent, c'est au sommet du Massif Central.
Ah oui, alors vraiment, toute autre ambiance. On va sur le mont Aigoual, nous sommes dans les Cévennes, entre le Gard et la Lozère. Les conditions météo, ils sont souvent très rudes, hein, franchement, dans ce genre d'endroit. Si vous arrivez à vélo, pour faire les derniers mètres, vous descendez de votre deux roues parce que de toute façon, sinon, vous ne tenez pas dessus. Je vous jure, j'ai testé pour vous. Ça s'était passé comme ça et c'était
ça
pas
s'était pas très
l'hiver.
Bien passé.
Ici, on est descendu.
Voilà, c'est ça.
Mais par beau temps, à cette altitude de 1565 mètres, on voit des sommets des Pyrénées, des sommets des Alpes et le mont Lozère qui est lui aussi dans le Massif Central. Pour aller voir le coucher de soleil là-bas ce soir, alors là, c'est vraiment tôt. Il faut être à 20h41.
Et c'est là qu'on se rend compte que voilà, le soleil ne se couche pas à la même heure partout
en France. Et puis il y a surtout des gros écarts, parce que ça on le sait, mais là vous voyez, on a 40 minutes en
mais
fait,
c'est
entre
énorme,
les deux.
Ouais. C'est, dernière émission de l'été, Sophie, et dernière application.
Ah oui, et alors franchement Lise, je vous l'ai choisie spécialement.
Ah bon?
Ben oui, parce que je sais qu'après avoir fréquenté un animal dans ce studio pendant 3 semaines, ne plus me voir moi, vous vous en foutez, mais l'animal là, qui se cache sous la table
Ilou.
Tous les jours, vous avez complètement craqué.
Voilà, je suis fan.
Et vous allez vouloir faire quoi?
Ben je sais pas, la ramener avec moi,
l'adopter. Vous allez vouloir emprunter un toutou.
Ah
eh oui.
Oui,
emprunte mon toutou. C'est donc le nom de l'application gratuite du jour. Le principe est simple, on s'inscrit, soit pour dire qu'on est partant pour garder un waf waf pour quelques heures ou pour quelques jours, ou pour dire qu'on cherche un dog-sitter. La géolocalisation vous permet de trouver le fan de toutou, de petites boules de poils le plus près de chez vous, c'est formidable. Bordeaux, Paris, Toulouse, Rennes, Marseille, Strasbourg, j'ai pas vérifié s'il y avait l'île de Ré, mais enfin en tout cas, a priori, on peut trouver son bonheur canin à peu près partout en France. Bon, Lise, je vous ai inscrite, hein, je vous préviens. Évidemment, pour vous, j'ai noté que vous vouliez être dog-sitter.
Bah, ouais, non, moi je suis copine qu'avec Ilou. Ah. Parce qu'il y a que.
Vous n'êtes que Maddox Sitter.
Ouais, il y a que elle que j'aime. Il y a que elle que j'aime. Elle a été formidable. Elle est dans ce studio pendant 2 mois. Elle est sage. Elle s'endort parfois, il faut quand même le dire.
Oui, elle ronfle.
Mais elle a été toujours sympa. Vous retrouvez toutes les références, évidemment, des contenus dont on vous parle dans le Club de l'été sur le site d'Europe 1. Et s'il vous manque une information, vous n'hésitez pas, vous nous écrivez sur Twitter, hashtag Europe 1. Même si on ferme le club ce soir, hein, on sera assez sympa pour vous répondre. Mais on est comme ça.
On vous aime tellement. Mais vous allez nous manquer terriblement.
C'est vrai. Dans quelques minutes. Bah oui, c'est vrai. Dans quelques minutes avec Sophie Moons, on termine notre saga consacrée aux pâtes. Avant ça, on écoute Jonas Brothers avec Sucker sur Europe 1.
9h, 11h,
le club de l'été sur Europe 1.
Ah ouais, Lise Pressac, c'est vraiment une animatrice en or qui vend de la programmation musicale comme personne.
Ah mais en fait, moi je connaissais que la partie punchy du truc, je pensais pas qu'il y avait des morceaux super dark comme ça dedans quoi. On a envie de... Non ? De passer par la fenêtre. Moi, je cherchais une fenêtre, là.
Et évidemment, une élocution parfaite et à toute épreuve, évidemment.
On va lui...
Je peux le passer.
C'était trop... C'était quoi ? C'était...
Sans oublier qu'elle est toujours polie et jamais un gros mot.
Oh merde, putain ! Mais ils enregistrent tout ce que je dis !
Et toujours prête à rire avec discrétion.
Avec une autorité à toute épreuve.
Mais j'ai jamais eu d'autorité, alors le vendredi, autant te dire que c'est terminé.
Un timbre de voix inégalable.
Monopole ou solidaire, à le mal qu'on peut nous faire, celle des vals, le val.
Merci Lise!
Lise Pressac.
Et vous allez me faire pleurer les amis, ça va pas du tout ça. Le club de l'été, j'ai encore quelques minutes à tenir encore.
Mais en plus elle a les larmes aux yeux.
Mais oui c'est vrai, bah, je suis émotive moi, faut pas faire ça.
Oh là là. Mais on vous aime, toute la France vous aime. C'est vrai que vous
et
allez
gagner. Et la Belgique aussi, non Sophie Moutou, rassurez-moi.
Vous avez maintenant migrer, vos aficionados belges.
Le club de l'été se poursuit avec notre invitée, la comédienne Simone Hérault, voix officielle de la SNCF. Alors c'est la partie où on mange. Simone, est-ce que vous cuisinez vous?
Je cuisine légèrement, mais c'est pas quelque chose que je fais très bien.
D'accord.
Les pâtes, on peut pas tout faire bien.
Bah, évidemment. Les pâtes, vous maîtrisez quand même ou pas du tout?
Un peu.
Alors, grâce à Sophie Moons, ouais. Parce que nous parlons de pâtes depuis le début de la semaine, il faut le savoir, Simone, on a appris plein de choses. On a appris d'abord à bien les choisir, à faire nos propres pâtes fraîches, à préparer la carbonara et la sauce au pesto. On a tout retenu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Sophie?
Un peu de poivre, un peu de sel.
Non, on n'aura pas du miel.
On met pas de miel.
En revanche, on aura du fromage. Aujourd'hui, je vous présente la recette la plus simple au monde. On n'a plus de sous, on est fauché, on n'a plus le temps de cuisiner. Ça, c'est la recette que vous faites en rentrant du boulot en 5 minutes. Je vous jure. Ça s'appelle les pasta cacio e pepe.
À traduction.
Traduisez fromage et poivre. Okay. Bon, enfin, on va faire un repas avec des pâtes et du fromage. C'est quoi cette histoire? Eh bien, je vais vous dire que bien fait, c'est le nirvana. C'est le nec plus ultra.
Non, je suis carrément d'accord.
Le truc, c'est qu'il faut à nouveau bien choisir ses produits. De bonnes pâtes, de bonne qualité.
Ça, on le sait.
Hein, étirer au bronze,
parce que vous aurez plus de granulosité, plus de mâche. Alors, pour cacio e pepe, moi, je vous conseille les spaghettis, pas les tout fins. Vous prenez un petit peu plus épais. Ou alors les rigatoni, penne, mais ils doivent être rainurés parce que ça va accrocher la sauce.
Ah, c'est important de le préciser.
Cacio, fromage, on va prendre du pecorino. Ça, c'est dans la recette originale. Vous râpez maison.
Oui.
Si vous n'avez pas de pecorino, du parmesan, une bonne tomme de votre région, un bon morceau de salers, sky is the limit, il vous faut juste un bon morceau de fromage. Vous râpez et vous poivrez déjà le fromage dans un saladier. Okay. Vous faites cuire vos pâtes bien salées.
Oui. Jusqu'ici, okay. Tout va bien.
Dans une sauteuse, une poêle sur le côté, vous allez en fait récupérer un peu d'eau de cuisson de vos pâtes. D'accord ? Bien amidonnée. Vous allez mettre de l'eau dans la casserole. Vous allez verser l'équivalent de 200 g de fromage râpé pour 500 g de pâte, par exemple. Et vous allez mélanger le fromage avec l'eau. Vous allez mélanger. Si c'est trop liquide, vous rajoutez du fromage. Si c'est trop solide, vous rajoutez un petit peu d'eau de cuisson. Donc vous allez avoir cette sauce fromage bien onctueuse, bien émulsionnée. Les pâtes sont cuites, vous ne les essorez pas trop, d'accord ? Vous les mettez directement dans la casserole, vous mélangez bien et vous rajoutez un petit peu de poivre. Basta.
C'est tout ?
Et quel poivre ? Est-ce qu'il faut choisir un poivre particulier ?
Alors, poivre noir qui est le plus puissant pour ce plat-là, il ne faut pas hésiter. Et puis, on pourrait même rajouter, soyons fous, de bons morceaux de jambon, du bon jambon, hein, et vous avez l'équivalent d'une coquillette jambon fromage, mais digne de ce nom.
Bah oui, un peu plus classe.
Et donc, on peut vraiment se faire plaisir en cuisinant rapidement avec... Mais bon, le petit investissement, c'est le petit morceau de fromage. Et alors, n'hésitez pas à repousser les portes des fromagers. Hein, ils sont là dans vos quartiers, ils ont besoin de vous aussi pour bien vivre. Voilà, c'est un tout
bonjour
petit,
Pauline.
Tout petit
je dis bonjour
investissement.
Bonjour à ma fromagère. Et Sophie, vont... j'ai deux fromagères.
Voilà, et puis ils vont vous parler de toutes ces croûtes de vos régions et n'hésitez pas à leur demander conseil. Voilà, vous leur expliquez pour une belle sauce fromage. Magnifique.
Alors j'ai une question. Voilà. J'ai une question, Sophie Mousse, parce que depuis le début de la semaine, on utilise à peu près le même fromage. Combien de temps est-ce qu'on peut le garder, puisqu'on a fait aussi notre pesto avec celui-ci?
Ah, le pecorino, oui, ça tient assez bien, hein, mais je dirais une bonne dizaine de jours, sans problème.
Ah oui, carrément.
Oui, oui, oui.
Donc on a le temps de se faire plusieurs plats de pâtes. Simone Hérault, vous êtes tentée? Là, c'est facile. Hein. Si vous êtes une cuisinière de 5 minutes, c'est bon, les pâtes.
Je rentre à la maison,
fromage,
j'y fais.
Poivre.
Non, mais c'est bon, avec un bon verre de vin à côté.
Avec notre ami Modération,
évidemment. Vous dites ça en France depuis toujours, avec Modération.
Oui, on n'a pas le choix.
C'est dingue, ça.
C'est une obligation légale.
Bah oui, on se doute bien, mais voilà. Mais profitez quand même d'un bon verre de temps en temps.
Mais on le dit, on le fait pas, c'est très différent.
Évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Simone Hérault, d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Merci d'accompagner nos voyages en train. Évidemment que vous avez la parole, allez-y.
Je voudrais simplement vous dire que j'ai été ravie de faire cette émission avec vous, les deux Sophie. Merci beaucoup. Lise,
c'est un plaisir pour
il faut que je lise. Alice, quelque chose, vous aviez un prénom prédestiné pour ma compagnie de lecture Lire Autrement. Alors, donc, je suis fière d'avoir été ici, je suis fière de cette compagnie Lire Autrement que j'ai fondée il y a 20 ans. Je peux vous donner le site, c'est lire-autrement.com, il y aura toutes les informations. Et je suis surtout très très fière d'être la voix de la SNCF depuis si longtemps. Cette entreprise me fait confiance. Il y a une grande fidélité et je les aime tous, les cheminots.
Moi, je me réjouis.
Très, très
dans quelques heures, je vous retrouve.
Mais
à
oui.
La gare.
Alors, c'est Simone, c'est ma copine.
Ça fait
déjà 38 ans, Simone, presque 40 ans. Vous vous rendez compte? C'est incroyable.
C'est génial.
Bon, en tout cas, c'est une belle maison et c'est une belle maison ici aussi. Sophie Massieu, Sophie Mousse, je voulais vous dire un grand merci à toutes les
merci
deux pour ces 3 semaines au club.
Merci à vous.
Oh, non, mais arrêtez. Hein. Est-ce que déjà qu'il faut que je
me permette Je peux me permettre, juste. Lise, vous êtes une nana géniale.
Oh là là.
Et aussi vrai dans le micro, derrière le micro que devant. Vraiment, vous êtes une chouette nana. Et puis surtout, une super chouette équipe. Au sein d'Europe, il faut le dire, il faut réécouter cette chaîne parce qu'elle a de la gueule. Il y a des gens passionnés à l'info, au divertissement. Franchement, top.
Et grand merci
pour l'accueil.
Merci beaucoup. Merci Sophie Massieu. C'était vraiment un plaisir. Vous avez été des partenaires formidables. Un immense merci aussi à toute l'incroyable équipe du Club de l'été qui m'a accompagnée pendant ces 3 semaines. Merci à Loïc De Oliveira pour sa réalisation impeccable et ses jingles déjà cultes. Merci même pour les jingles les plus, compromettants. Merci à Julien Cottreau pour sa programmation pendant ces 2 mois. Pour son attention et pour son soutien permanent. Merci Julien. Merci à Sabrina Slimani, Alexandre Omar, Julien Krognek à la préparation de l'émission.
Je vais réussir
à
la finir.
Antoine, pardon, j'aime trop Julien. Voilà. Merci pour votre efficacité, votre bonne humeur.
Bonne chance les jeunes.
J'oublie pas les juilletistes. Merci à Olivier Pouls, Elisa Juel et Robin Bernot qui étaient aux manettes en juillet. Un grand merci enfin évidemment à la grande sœur Eva Rock et merci à Nadia Milosevic pour sa confiance. Je vous laisse en compagnie d'Anne Roumanoff. Très bonne journée à l'écoute d'Europe 1. C'était mes 6e au revoir à ce micro.
Au revoir.
En 7 ans, 6 au revoir, c'est pas mal. Donc à bientôt ici ou ailleurs.
On vous embrasse.